Bon dimanche à toutes et à tous sur RCF, il est 7h. Allez, nous sommes encore ensemble jusqu'à 9h pour débuter cette journée. Merci pour votre fidélité. L'Avent, une aventure de fraternité. Les explications dans quelques instants du père Bernard Devers, le fondateur de l'association Habitat et Humanisme. À une semaine de sa réouverture, nous chanterons Notre-Dame de Paris avec Robert Migliorini. Un air qui me rappelle, c'est à 7h05. Puis nous vous présenterons le temps de l'Avent avec le père Sylvain Gasser dans le rendez-vous liturgique du dimanche matin. C'est tout à l'heure à 7h15. Mais pour l'heure, je vous invite à faire un nouveau point sur vos conditions météo pour ce 1er décembre. Le soleil s'installe sur une grande partie du pays après la dissipation des brumes et brouillards matinaux, exception le Languedoc qui conserve un temps gris et humide. En Belgique, le ciel se partage entre éclaircies et passages nuageux, parfois importants pour ce 1er décembre. Les températures pour votre dimanche après-midi, 7 degrés à Lille et Reims, 9 à Dijon, il fera cet après-midi 11 à Paris, 12 du côté de Rouen, 13 à Orléans, Lyon et Montpellier, 14 pour Saint-Étienne et Ajaccio, 15 à Marseille, 17 à Toulouse, 18 à Bordeaux. Pour la Belgique, 8 degrés à Bruxelles et 9 à Liège. Et nous retrouvons le père Bernard Devers, le fondateur de l'association Habitat et Humanisme. Bonjour père Devers.
Cher Bruno, chère auditrice et auditeur, je vous adresse mon salut le plus fraternel. Nous rentrons dans ce temps de l'Avent. Temps de la promesse avec l'inouï d'une naissance, celle de l'enfant Dieu. Il ne s'agit pas de préparer un anniversaire, mais de vivre notre propre nativité afin de naître à ce que nous sommes appelés à devenir. L'enfant Dieu n'a pas de place. Il grandira. Elle sera refusée. D'aucuns, ceux-là même appelés à l'accueillir, veilleront à ce qu'ils ne la trouvent jamais. Ce Noël à Bethléem sera encore difficile. Terre brûlée par la violence où tant d'enfants ont trouvé la mort. Que de Bethléem de par le monde. Plus de 2000 enfants en France n'ont pas d'hébergement pour n'avoir d'autre place que la rue. Que de mamans après leur accouchement sont à la recherche d'un toit. Que de foyers en situation de vulnérabilité sont pendus à un numéro de téléphone pour tenter de rechercher un abri qui trop souvent s'avère impossible. En m'écoutant ou en me lisant, vous allez peut-être dire « Mais nous sommes à 20 jours de Noël, que faire ?» Noël, c'est chaque jour, pour tenter de faire place à ceux qui ne l'ont pas ou plus. La désespérance n'a pas de place dans un monde déjà suffisamment désenchanté. L'heure est celle de développer une économie de la solidarité pour qu'elle devienne une économie du soin, en d'autres termes, une économie du cœur. Si le divin s'est déplacé, tel est le sens de Noël, nous avons aussi à notre tour à nous déplacer pour aller à la rencontre des oubliés devenus si nombreux que désormais. Il est difficile de ne pas les croiser, sauf à accepter cette fermeture des cœurs, cause d'une immense cécité, jusqu'à donner l'alibi de ne point voir. Une bonne nouvelle, en cette entrée en avant, nous venons de recevoir le permis de construire pour réaliser au sein de l'abbaye de Belloc des logements locatifs sociaux sans altérer naturellement les façades pour respecter la qualité du site. Nous vous avons fait part de notre venue à Belloc, d'où parfois une interrogation, mais que sommes-nous venus faire sur ce haut lieu spirituel ? Le projet, naturellement, n'était pas de faire une opération immobilière, mais de faire place à ceux qui ne l'ont pas ou difficilement. Ainsi, 22 logements seront destinés par priorité aux auxiliaires de vie et aides-soignants qui peinent à trouver un toit dans des conditions de loyer compatibles avec leurs ressources. Telle est la mission d'Habitat Humanisme. Elle est immense. Participer concrètement à une spiritualité de la fraternité. Relier pour être des alliés. Noël, présent de celui qui naît pour nous faire naître, éveillant ce possible désir de faire quelques pas vers l'infini, s'ouvre alors une part d'humanité. Paul Claudel nous en révèle la source, parlant de l'innocence et de l'éternelle enfance de Dieu.
Le père Bernard Devers, le fondateur de l'association Habitat et Humanisme, RCF et Radio Notre-Dame, il est 7h05. Chanter Notre-Dame, c'est le programme ce matin d'un air qui me rappelle. Et j'ai le plaisir d'accueillir Robert Migliorini. Bonjour Robert.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon cher Bruno, évidemment, l'événement arrive et s'impose dans notre programmation avec beaucoup de titres possibles autour de Notre-Dame et des cathédrales. Donc nous essaierons dans une première vague de confronter là aussi, donner des échos à un titre, on va dire, profane ou dans le domaine profane, mais qui évoque la cathédrale Notre-Dame, et un autre titre dans le répertoire chrétien que je vous laisse présenter.
Dans un instant, Hubert Bourrel et Marie-Louise Valentin, mais on commence avec 16, voici La Dame en Feu sur RCF et Radio Notre-Dame.
C'est la main de l'homme ouvrier qu'on voit s'envoler en fumée, là dans les flammes. C'est l'histoire de l'humanité, tu sais, c'est quand on bâtissait l'inatteignable. sont les siècles de prières, ce sont les siècles de sanglots des misérables. Quand ce que l'homme a fait de mieux part en poussière devant les yeux, c'est l'impensable. C'est les hommes morts tombés du toit, c'est les charpentes dignes des rois, c'est la beauté. C'est l'art sacré des mains de l'homme, je crois voulant parler à Dieu d'éternité. Toi les prières des millénaires, toi les cierges des bords de Seine, triste Paris. Oui, la blessure restera là, gravée dans le cœur pour que plus jamais l'oublie. Je pleure et mes sanglots ne peuvent rien contre les flots du ciel en feu. Toi qui auras fait écrire Hugo, toi l'abri de Quasimodo, touchant les cieux. Toi les murs de l'éternité, moi quand j'étais agenouillé, chantant Marie. Toi qui auras survécu les guerres, de te voir luttant les enfers, quelle tragédie. Toi qui resteras sur la terre, quand on aura tout détruit, toi, l'art du sacré. Toi la gothique, toi la baroque, toi le symbole de cette époque de crucifiés. Oui, toi la flèche tombée au feu, pourvu qu'un jour face à nos yeux soit renaissance. Oui, pourvu que l'humanité, oui, face à la fatalité, soit résilience. Quand les rues de Paris soudain dans leur chagrin virent au silence des églises, devant la tragédie au sein du Saint des Saints, le Saint-Esprit plus de mise. Toi de Paris, reine des fleurs, toi l'autel accueillant les pleurs du désespoir. Tu richissime aux pauvres gens, faire de l'athée le croyant par le regard. Nous pleurons de tristes sanglots qui ne peuvent arrêter les flots de la tristesse. De voir mère de Quasimodo y mettre le ciel en flambeau sonnant la messe. De la Milan qui dans mille ans sera toujours le testament du souvenir. Des sanglots des millions de gens qui te regardent les yeux pleurant, comment te dire. Notre-Dame, tu renaîtras pour que dans 10 000 ans de ça vienne un enfant. Vienne au-devant lire ton histoire pour comprendre bien mieux que nous l'histoire d'avant. Bien plus que nos tristes vies, certaines choses n'ont pas de prix, c'est l'histoire. Oui, qu'on a bien du mal ici, protégé contre la nuit, courte mémoire. 1000 ans d'histoire partis en feu, pourquoi t'as pas pleuré, bon Dieu, un ciel d'orage. Histoire que tes sanglots un peu viennent éteindre l'enfer des cieux, de ce carnage, de ce ciel qui ne sera plus jamais le même, puisque perdus vont nos mémoires. L'histoire des hommes pendant des siècles qui auront construit force des mains, oui, notre histoire. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Puis que dire face à ce monde inconcevable, où tout se barre en lambeaux, mais surtout jamais personne n'est responsable. Un incendie en bord de Seine, venu brûler l'histoire de l'homme, moralité. L'homme est toujours le criminel, triste de lui, oui, de sa propre éternité.
musique qui nous fait penser à l'orgue de Notre-Dame de Paris sur RCF. C'était 16 avec cette chanson, La Dame en feu, Robert Migliorini.
Oui, Damien 16, un artiste de 47 ans qui était pas trop attendu sur ce registre-là, dans son répertoire habituel, et tout à coup il a sorti donc deux chansons autour de ou à partir de ce qui est du chantier de Notre-Dame, de l'incendie de Notre-Dame. Là, c'est une de la première chanson où il développe un peu, il décrit la dame en feu. Donc tout à fait inattendu dans son répertoire, mais qui sait apporter justement une pierre, c'est le cas de le dire, à l'ensemble des œuvres qui sont nées et créées à partir de l'attachement de beaucoup à Notre-Dame, et pas seulement l'attachement des croyants comme on a pu l'expérimenter et qu'on l'expérimente encore. En tout cas, Damien 16, inattendu sur le registre, mais assez fort dans ce titre.
On va poursuivre, Robert, avec Hubert Bourrel et Marie-Louise Valentin. Voici « Écoutez la chanson de Dame à cathédrale ».
La chanson de Dame cathédrale, écoutez la chanson tissée au fil des jours, là là, écoutez la chanson de Dame cathédrale, écoutez la chanson, une chanson d'amour.
La cathédrale m'a parlé de princesse et de chevalier,
sa flèche transperçait le ciel rouge du petit jour.
J'imaginais les bâtisseurs, les cloches du maître sonneur,
la chanson des maîtres verriers travaillant tout le jour.
Écoutez la chanson de Dame cathédrale, écoutez la chanson tissée au fil des jours, là là, écoutez la chanson de Dame cathédrale, écoutez la chanson, une chanson d'amour.
La cathédrale m'a parlé de la foire rude des aînés,
du gazetier des nouveau-nés, des mariages d'amour,
la cuisinière cherchant de l'eau et le charpentier son marteau,
au chef-d'œuvre participait ainsi chacun son tour.
Écoutez la chanson de Dame cathédrale, écoutez la chanson tissée au fil des jours, là là, écoutez la chanson de Dame cathédrale, écoutez la chanson, une chanson d'amour.
La cathédrale dans un pleur m'a raconté comment la peur
a condamné la liberté aux flammes des bûchers.
Cette histoire lui rappelait qu'une ancienne tour était tombée,
qu'elle n'a jamais atteint le ciel, qu'on l'a nommée Babel.
Écoutez la chanson de Dame cathédrale, écoutez la chanson tissée au fil des jours, là là, écoutez la chanson de Dame cathédrale, écoutez la chanson, une chanson d'amour.
La cathédrale m'a parlé de son cousin le minaret,
des mandalas de Calcutta et des yeux du Bouddha.
La synagogue porte l'étoile, chacun de nous sa cathédrale. On croit en rien ou au bon Dieu, mais on fait de son mieux.
Écoutez la chanson de Dame cathédrale, écoutez la chanson tissée au fil des jours, là là. Écoutez la chanson de Dame cathédrale, écoutez la chanson, une chanson d'amour. Écoutez la chanson de Dame cathédrale, écoutez la chanson tissée au fil des jours, là là. Écoutez la chanson de Dame cathédrale, écoutez la chanson, une chanson d'amour. Une chanson d'amour.
Écoutez la chanson de Dame cathédrale, Hubert Bourrel et Marie-Louise Valentin, Robert.
Oui, un disque et un titre de 2016 à partir extrait d'un album qui s'appelait Pèlerin au pluriel, lié justement au pèlerinage avec une messe cathédrale des temps nouveaux. Et eux aussi amènent leur pierre à cette résurrection d'une cathédrale. Le duo Marie-Louise Valentin, Hubert Bourrel, qui a enregistré un certain nombre de disques et fait de nombreuses animations. Et qu'on aime bien programmer dans cette émission. Voilà, en tout cas, quand ils sont eux aussi pèlerins, ils nous aident à pèleriner.
Merci Robert Migliorini. On se retrouve pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, matinée spéciale réouverture de Notre-Dame de Paris, mais dans 15 jours pour un air qui me rappelle. Et en attendant, il y a votre blog sur le site de l'Assomption au cabaret du Bon Dieu.
En partenariat avec la Croix. Merci.
La matinale de RCF et Radio Notre-Dame. Bruno Fuma.
Belle journée à toutes et à tous. Place à présent au rendez-vous liturgique du dimanche matin. Et je retrouve le Père Sylvain Gasser. Bonjour Père Gasser.
Bonjour Bruno.
Vous êtes rédacteur à la revue Prions. Père Gasser, ce dimanche commence le temps de l'Avent et vous nous en parlez donc ce matin.
Oui, bien sûr, puisqu'avec le temps de l'Avent commence également une nouvelle année liturgique.
Quel est le sens de ce temps ?
L'Avent est d'abord perçu comme la préparation de Noël. Et les thématiques en cette fin de l'année se croisent. C'est la fin de l'année, justement, les vacances scolaires approchent, c'est la planification des cadeaux, des repas et des fêtes familiales, avec l'attente surtout que ces moments soient vécus comme une trêve, que ce soit des moments de paix. Et en contrepoint avec cette agitation qu'on va connaître durant tout le mois de décembre, la liturgie fait preuve d'une grande sobriété.
Père Gasser, comment est organisé le temps de l'Avent ?
Il commence le quatrième dimanche avant Noël et il marque le début, comme je l'ai dit, de l'année liturgique. Ce temps a une double caractéristique. C'est à la fois un temps de préparation aux solennités de la Nativité, où l'on commémore donc le premier avènement du Fils de Dieu parmi les hommes. Jésus vient parmi nous. Et c'est un temps où les fidèles se tournent vers l'attente du second avènement du Christ à la fin des temps, c'est-à-dire qu'au même moment, on attend que le Christ revienne dans sa gloire. Et ce n'est que la dernière semaine à partir du 17 décembre, donc du 17 au 24 décembre, que la liturgie nous prépare directement à Noël. Avant cette date, la liturgie nous remet devant la promesse de Dieu qui a marqué tout l'Ancien Testament. Elle nous replace devant le « pas encore » en nous invitant à faire du retour du Christ une boussole pour notre vie. Le temps de l'Avent, donc, nous incite à vouloir accueillir à nouveau, ou je dirais un peu mieux, la présence du Christ dans nos vies pour qu'il puisse continuer à naître dans notre monde. L'Avent est donc une préparation, mais comme on parlerait d'une préparation en cuisine ou en pharmacie, tous les ingrédients de la vie chrétienne sont présents. La foi dans la promesse, l'espérance joyeuse de la venue et la charité accomplie en Christ. Le mélange est subtil et léger, comme l'est finalement la vie divine qui pénètre délicatement dans l'humanité.
Quelle est l'origine de l'Avent ?
En Orient, le concile d'Éphèse qui a eu lieu en 430 a exalté la maternité divine de Marie et a donné un grand relief à la célébration de la naissance humaine du Fils de Dieu. Avant, on ne fêtait pas vraiment la naissance de Dieu. On fêtait surtout et essentiellement encore aujourd'hui Pâques. Et dans ce contexte, les semaines qui précèdent la double fête de Noël et de l'Épiphanie constituent une sorte de méditation anticipée sur la venue du Sauveur. Les liturgies orientales s'octroient 4 ou 5 semaines pour chanter les événements qui ont préparé la naissance du Messie. Les personnages qui ont joué un rôle déterminant dans cette préparation, et vous les connaissez, c'est Jean-Baptiste, c'est la Vierge Marie, mais ce sont aussi tous les saints de l'Ancien Testament. Et c'est enfin un temps où la transformation du monde est désormais habitée par le Dieu qui se fait homme. Et à Rome, c'est seulement au VIe siècle que l'Avent trouve son organisation durable. Donc ça n'est pas venu tout de suite. Et c'est au 8e et 9e siècle que les messes de l'Avent passe au début de l'année liturgique. Donc il a fallu presque 1000 ans pour que l'Avent se mette en place. L'attente chrétienne trouve son expression spontanée dans les textes prophétiques inspirés par l'attente du Messie. Eh bien, c'est Isaïe, c'est Jean-Baptiste, et à Rome, ce sont les deux grandes voies de la liturgie de ce temps.
Qu'en est-il de la couronne de l'Avent ?
Ça, c'est une tradition très sympathique. C'est la disposition de 4 cierges sur une couronne qui est constituée toujours de rameaux verts. Et cette tradition est en usage spécialement dans les pays germaniques, en Amérique du Nord. Mais maintenant, c'est un peu partout, dans toutes les maisons, y compris au Vietnam où je me suis rendu. Et on a des couronnes de l'Avent. Et c'est devenu le symbole de l'Avent dans les maisons des chrétiens. La couronne consiste à allumer successivement, d'un dimanche à l'autre, les 4 cierges jusqu'à Noël. et elle contribue à raviver la mémoire des différentes étapes de l'histoire du salut antérieure au Christ. Elle symbolise, comme je l'ai dit avant, la lumière des prophéties qui, tout au long de l'histoire, illumine la nuit de l'attente du peuple de Dieu jusqu'à l'apparition du soleil de justice, qui est un texte du prophète Michée. Et ce texte-là, on l'entendra durant la liturgie de ce temps de l'Avent.
Un grand merci, Père Sylvain Gasser. On se retrouve très bientôt pour continuer d'évoquer la liturgie sur RCF et Radio Notre-Dame.
Avec grande joie et bon dimanche et bonne année et bon temps de l'Avent à tous les auditeurs.
Extrait du clavier bien tempéré, le livre numéro 1, mais le V850 de Jean-Sébastien Bach. Nous écoutions cette fugue numéro 5 en ré majeur dans une version de jazz signée ici Jacques Loussier.
Depuis plusieurs jours, nous sollicitons votre générosité. Pour tous ceux qui ont répondu présent, toutes les équipes RCF vous disent merci. Et si vous souhaitez nous soutenir, il n'est jamais trop tard. Faites aujourd'hui un don en ligne sur rcf.fr. À Radio Don RCF, la joie de donner.
Notre-Dame de Paris, la splendeur retrouvée. Un hors-série du magazine Le Pèlerin, expert de l'histoire de la cathédrale. Avec des photos exclusives sur les prouesses du chantier, un avant-après, des reportages sur les coulisses du parcours liturgique, des interviews de scientifiques et des métiers de l'ombre. Les experts de la reconstruction et les acteurs du nouvel élan spirituel racontent Notre-Dame pour nous livrer une vision de la cathédrale dans toutes ses dimensions. 8,95€ chez vos marchands de journaux à partir du 22 novembre.
Vous écoutez RCF à Lille sur le 97.1.
7h24 sur RCF et Radio Notre-Dame. Nos questions du Parvis ce matin. Est-ce utile de prier les saints? Nous retrouvons Bruno Courtois et Mgr Stanislas Lalanne, l'évêque de Pontoise.
Mgr Lalanne, bonjour.
Bonjour.
Nous reprenons ainsi les questions du Parvis, les fameuses questions du Parvis. Ça veut dire que ce sont des questions de foi qui nous anime, et j'avoue qu'on manque tous beaucoup, beaucoup de formation, donc vous allez essayer de nous aider. La question du jour, c'est finalement une question assez simple, c'est est-ce que ça sert à quelque chose de prier pour les saints? Est-ce qu'on prie pour les saints? Est-ce qu'on prie les saints? Et on prie pourquoi pour les saints? Enfin bon.
On prie les saints, mais pas de la manière dont on prie le Seigneur, on prie Dieu. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la liturgie, les liturgies, je pense à la vigile pascale, je pense aux liturgies du baptême, je pense aussi à l'ordination de diacres, de prêtres, d'évêques. C'est la litanie des saints, une espèce de vague là, qui revient, et on invoque les saints depuis les premiers apôtres jusqu'aux saints contemporains, ceux qui sont canonisés, on parlera peut-être aussi de ceux qui ne sont pas canonisés, qui ne sont pas connus, et on leur demande de... un refrain qui revient comme ça, « Priez, priez pour nous ».
C'est toujours donc, très émouvant. Hein.
C'est très émouvant et ça donne bien la justesse théologique et spirituelle. On leur demande de prier pour nous. Vous savez, qu'on soit vivant aujourd'hui sur la terre, comme vous et comme moi, ou qu'on soit déjà auprès du Seigneur, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de solidarité entre tous ces témoins de la foi, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, ceux dont on porte les prénoms. Je trouve que c'est aussi très, très important d'avoir des saints patrons. Mais... Et donc, on prie avec les saints, on demande aux saints finalement de prier pour nous, d'intercéder pour nous.
Mais c'est important de prier pour un saint en particulier. Par exemple, on va prier pour saint Stanislas, saint Bruno, saint... Un tel ou un tel, on prie pour les saints en général.
Saint Bruno, le 6 octobre, ça c'est important. Saint Stanislas, le 11 avril, c'est important. Je crois que, moi je dis ça souvent à des jeunes, aux jeunes confirmants, aux jeunes catéchumènes. C'est important que vous connaissiez la vie de votre saint patron. On a besoin, nous, dans notre vie chrétienne, d'avoir des exemples, d'avoir des modèles, et donc de connaître quelques saints qui nous marquent profondément. Quelquefois, ils ont écrit aussi des textes qui peuvent nous inspirer. Et donc, le saint patron, je trouve que fêter la... Souvent, les gens que je rencontre, ils ne connaissent même pas la date. Alors, de leur saint patron.
D'où l'intérêt peut-être, pour les parents ou les futurs parents qui nous écoutent, c'est de choisir effectivement un prénom qui correspond à un saint, oui. Avec peut-être une personnalité particulière.
On a de plus en plus, on voit bien, hein, dans les catéchumènes, ou dans les confirmants, on a souvent des prénoms...
qui ne veulent rien dire.
Qui ne veulent rien dire, ou peut-être qu'ils deviendront eux-mêmes des saints, mais quand même, de porter le nom d'un saint ou d'une sainte qui a marqué une communauté, qui a marqué un peuple...
Ça peut vous porter. Ça peut nous porter.
Ça peut nous porter, oui.
Une petite question en 15 secondes, je sais que ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, quelqu'un devient saint? L'Église décrète qu'il est saint et donc maintenant on peut prier pour lui?
On peut le prier? Oui. Alors, il y a tout un processus de canonisation, de béatification avec Rome. Mais ce n'est pas d'abord un modèle de perfection. On voit des saints et des saintes qui ont eu des vies assez tumultueuses, mais ils étaient habités par le Christ. Et ils aimaient les frères à la manière du Christ. Donc il y a une espèce d'engagement radical.
C'est pas d'abord
un modèle de perfection.
Un jour, on peut se mettre à prier Mère Teresa, alors que la veille, on ne pouvait pas. Enfin, c'est pas si simple. Ben,
c'est vrai, vous avez raison, mais c'est vrai aussi que la sagesse de l'Église fait que on donne comme modèle pour les communautés chrétiennes, on donne des personnes qui ont fait preuve justement d'une vie quelquefois qui va jusqu'au martyr. Qui ont donné leur vie pour le Christ. Il y a dans chaque figure de saint quelque chose de radical, de l'amour du Christ et l'amour des frères. Et ça, je crois que c'est vital pour nous chrétiens.
On va prier pour Saint Stanislas. On va prier Saint Stanislas pour vous, plutôt.
Voilà, et Saint Bruno.
Plus précisément. Voilà. Merci beaucoup, merci, Monseigneur Lalanne.
Les questions du Parvis, Bruno Courtois recevait à son micro Monseigneur Stanislas Lalanne, l'évêque de Pontoise. Dans un instant, un bilan de la Semaine Rouge proposée par l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Nous en parlerons avec Benoît de Blanpré. Juste le temps pour nous de faire un nouveau point sur vos conditions météo. Et le soleil qui s'installe sur une grande partie du pays après la dissipation des brumes et brouillards matinaux. L'exception, c'est le Languedoc qui conserve un temps gris et humide. On passe à la Belgique. Le ciel se partage entre éclaircies et passages nuageux, parfois importants pour ce dimanche. Les températures ce matin, pas très chaud à Metz où il fait actuellement moins 1. 1 petit degré à Lille et Dijon, 4 à Paris et Lyon. 5 degrés ce matin à Tours et Aurillac, 6 à Rouen, 8 du côté de Bordeaux et d'Ajaccio. 9 à Rennes, 10 à La Rochelle, 11 à Montpellier et 12 à Marseille. Les températures pour votre dimanche après-midi, 7 prévues à Lille et Reims, 9 à Dijon, 11 degrés au pied de la Tour Eiffel cet après-midi à Paris. 12 à Rouen, 13 à Orléans, Lyon et Montpellier. 14 degrés du côté de Saint-Étienne, vous écoutez sur le 94.7 cet après-midi. 14 également à Ajaccio, 15 à Rennes et Marseille, 17 à Toulouse et 18 à Bordeaux. Côté Belgique, 8 degrés à Bruxelles et 9 à Liège. C'est l'heure de notre rendez-vous avec l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Et j'accueille son directeur pour la France, Benoît de Blanpré. Bonjour Benoît.
Bonjour Bruno.
Vendredi dernier, s'est achevée la Semaine Rouge organisée par l'AED, l'aide à l'Église en détresse.
Oui, une semaine intense, en effet, pendant laquelle nous avons souhaité alerter sur la situation de ces millions de chrétiens dans le monde qui n'ont pas la possibilité de vivre librement leur foi. Alors, peut-être, chers auditeurs, avez-vous vu l'église de votre ville éclairée en rouge, permettant ainsi, au milieu de la nuit, de rendre visible la souffrance trop souvent silencieuse des chrétiens en détresse. Le sanctuaire de Lourdes a ainsi été illuminé, et je dois dire que la photo que j'en ai reçue, avec au premier plan la statue de la Vierge Marie sur la grande esplanade et devant elle le sanctuaire tout en rouge, était vraiment magnifique. Je crois que Marie veille sur les chrétiens souffrants et qu'elle soutient leur espérance.
Et Benoît, cette année encore, vous avez eu la possibilité d'éclairer en rouge le Sacré-Cœur de Montmartre.
Oui, c'était d'ailleurs très beau. Et puis, pour la toute première fois, nous avons éclairé la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a donc été illuminée du rouge du sang des martyrs. Et c'était un symbole très fort. En effet, nous nous réjouissons de la réouverture de la cathédrale et dans le même temps, nous n'oublions pas nos frères et sœurs chrétiens dans le monde qui ne peuvent pas se rendre librement dans une église au risque d'être surveillés, opprimés et parfois même de ne jamais en revenir. Et puis pour compléter cette semaine rouge, nous avons également mis en place dans certaines cathédrales une exposition temporaire intitulée « À la rencontre des chrétiens dans le monde » permettant de présenter les communautés chrétiennes de certains pays qui vivent leur foi au prix de la persécution. Alors je pense particulièrement à l'église en Chine, en Corée du Nord, dans la région du Sahel, en Afrique, ou encore dans certains pays du Moyen-Orient et d'Amérique latine.
Enfin, la semaine rouge de l'AED a été ponctuée par la Nuit des Témoins que nos auditeurs commencent à bien connaître.
Oui, exactement. Et cette année, la Nuit des Témoins a été organisée à Ajaccio, à Bayonne, à Versailles, à Rennes et à Paris. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier de tout cœur les évêques qui nous ont accueillis dans leur diocèse et les prêtres qui nous ont reçus dans leur paroisse. Et alors Bruno, j'ai été très touché par le monde qui s'est rassemblé chaque soir pour rendre hommage aux martyrs d'aujourd'hui et puis pour prier pour les chrétiens persécutés. Et puis pendant ces veillées de la Nuit des Témoins, nous avons entendu les témoignages touchants et poignants de nos témoins venus du Pakistan, d'Arménie et du Burkina Faso. Alors vous voyez, chers amis et auditeurs, à l'AED, nous ne manquons pas d'énergie, d'audace et d'initiative pour porter la voix des chrétiens en détresse dans le monde. Leur souffrance nous concerne, leur foi nous oblige et leur espérance nous édifie. Alors continuons ensemble à les soutenir fidèlement par nos prières et par notre générosité.
Merci Benoît de Blanpré, on se retrouve la semaine prochaine pour ce rendez-vous avec l'AED, l'aide à l'Église en détresse.
Merci beaucoup Bruno.
C'est l'heure où la justice vient, c'est que Noël est là si proche. Prenez l'avant comme un printemps, un coup de vent poussant les choses. Prenez la vie, prenez le temps d'aller tout bas, fleurir les roses. Prenez l'avant comme un
un texte du Père Jean de Brune, mis en musique et interprété par le groupe Nomade, Debout, il t'appelle. Vous êtes sur RCF et Radio Notre-Dame, merci de débuter avec nous cette journée. berger de l'Avent. C'est la carte blanche ce matin de Didier Rance. Bonjour Didier.
Bonjour à toutes et à tous. Cette année encore, je vais lire, ce premier dimanche de l'Avent, le berger de l'Avent de Gunnar Gunnarsson. Je ne serai pas le seul. L'histoire toute simple. Ce premier dimanche de l'Avent, donc, le vieux berger Bénédicte part avec ses deux compagnons inséparables, le chien Léo, le bélier roc, dans les montagnes de l'Islande pour essayer de récupérer les moutons égarés lors de transhumance automnale vers les lieux habités. C'est le 27e hiver que le fait cet homme simple, mais habité par tout l'Évangile, et bien sûr, puisqu'il est un berger, la parabole de la brebis égarée. Il doit ramener ses bêtes avant que Noël n'apporte sa bénédiction à la terre, ainsi que la paix et la joie dans le cœur des hommes de bonne volonté. La recherche des trois compagnons va durer plus longue que prévu, au point que toutes les réserves alimentaires pour l'homme et ses deux compagnons animaux vont être épuisées. Ils vont connaître bien des contretemps, des bêtes égarées plus bas, qu'il faut retrouver et ramener, puis bientôt le terrible blizzard hivernal qui transforme la montagne en glacière surmontée de neige. Tout semble perdu pour eux, quand la neige a totalement recouvert le trou préparé à l'avance comme camp de base pour la recherche dans les hauteurs. Mais Bénédicte ou Gunnarsson connaît les paroles de saint Paul. Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Le vieux Bénédicte ne perd jamais l'espérance. Sur le point de mourir de froid et d'épuisement, il trouvera enfin le trou aménagé à la bonne saison, recouvert d'une épaisse couche de neige. Il peut alors chercher et trouver 5 moutons à travers bien des risques d'enfers, bien des difficultés. Il les conduira jusqu'à la vallée, jusqu'au salut pour Noël. Ce conte exalte la beauté dangereuse de la nature, le courage opiniâtre de l'homme et des animaux qui s'affrontent à elle, qui peut aller jusqu'au sacrifice, l'amitié entre les espèces. Sous la simplicité du récit, Gunnarsson nous donne ici une puissante actualisation de la parabole de la brebis éperdue, et que Jésus est à la fois le bon berger, l'enfant Dieu de Noël, le prince de la paix. Pas étonnant que ce conte soit mondialement connu.
La carte blanche du Didier Rance sur RCF et Radio Notre-Dame. Bon dimanche à toutes et à tous. Place à présent à la bande dessinée avec Stéphanie Gallet. Elle répond aux questions de Simon Tatro.
Allez, nous sommes un samedi, premier samedi du mois de décembre. On commence à penser aux idées de cadeaux de Noël. Pourquoi pas une bande dessinée? Bonjour Stéphanie Gallet.
Bonjour Simon Tatro, bonjour à tous.
Alors vous nous avez apporté une BD qui fait partie des albums sélectionnés pour le Festival d'Angoulême, le grand salon de la bande dessinée en janvier prochain.
C'est une BD qui pourrait bien passer inaperçue au milieu de cette sélection toujours pléthorique. Sa couverture est plutôt discrète, un paysage de nuit dans des tons bleutés, mais on aurait vraiment tort de ne pas ouvrir cet album, tant ses pages rayonnent d'une très jolie lumière.
Petite originalité dans la présentation, c'est un format à l'italienne, c'est-à-dire dans le sens de la largeur. La BD s'appelle « Les météores » et c'est sous-titré « Histoire de ceux qui ne font que passer ».
Oui Simon, et « histoire » est au pluriel. C'est un peu une BD chorale. Les auteurs nous offrent une belle galerie de portraits tout à fait attachants. Il y a d'abord Floyd, un géant un peu balourd, qui n'a pas la même intelligence que tout le monde et qui trimballe sa grande carcasse, protégé par Gary, son tuteur. Il y a Holly, qui rencontre Floyd dans un abribus en attendant le bus de 5h46. Holly est infirmière à domicile. Elle prend soin de personnes âgées. Cette vieille dame adorable qui attend chaque matin le premier rayon du soleil pour boire son café. Mais aussi ce vieux raciste acariâtre à qui elle finit par dire que si elle le lave tous les jours, ce n'est pas pour l'argent, mais parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Il y a aussi Sammy, qui travaille avec Floyd dans un magasin de meubles. Il est une sorte de délégué du personnel. Il a le souci de chacun dans cette équipe. Mais dans sa vie à lui, il crève de solitude. Et allez, encore un dernier. Elijah, c'est le fils de Holly. Il doit avoir 16-17 ans, il zone un peu, fait des conneries, mais il est aussi peut-être en train de tomber amoureux.
Et tout ça donne une histoire ?
Oui, les auteurs ont beaucoup de talent pour, mine de rien, nous faire passer d'une histoire à une autre, d'une case à une autre. Et surtout, Simon, le 17, Floyd chante à la paroisse et tout le monde est invité. Ça n'a l'air de rien, mais il y a des moments où la perspective d'un concert dans une paroisse, ça redonne le sourire à tout le monde. C'est un moment de joie pure.
Stéphanie, est-ce qu'on peut revenir à la couverture ? J'ai un peu de mal à y discerner de la joie.
Ce que je ne vous ai pas encore dit, Simon, c'est pourquoi les auteurs nous invitent à nous intéresser à ceux qui ne font que passer, à ces météores, comme ils disent. Cet album, c'est une sorte de zoom sur ces vies simples qui donnent sens à toute notre société. Car une menace plane, et c'est la raison de l'obscurité de la couverture. Une météorite se dirige droit sur la Terre, et nous assistons peut-être au dernier moment de ces existences tranquilles et banales. Alors, comment se tenir face à la catastrophe ? C'est la question que pose cet album. Et la réponse est en filigrane dans toutes ses cases. Et cette réponse, elle m'a enthousiasmée. Face à la catastrophe qui vient, quelle qu'elle soit, la seule réponse, c'est l'altruisme. On se dit que cette météorite qui nous arrive dessus, c'est peut-être une métaphore. Que la catastrophe, c'est peut-être une mort annoncée, un licenciement, le départ d'un être aimé. Comment se tenir face à la catastrophe? Eh bien, humblement, en prenant soin les uns des autres. Alors merci à Jean-Christophe Devenet et Tommy Redolfi pour leur délicatesse et leur histoire qui nous rappelle l'importance des choses simples.
Les météores, histoire de ceux qui ne font que passer, de Jean-Christophe Devenet et Tommy Redolfi, c'est aux éditions Delcourt. Merci Stéphanie Gallet.
Le rendez-vous bande dessinée de Stéphanie Gallet. Elle répond à l'instant aux questions de Simon Tatrou. À suivre, l'agenda du week-end, coup de projecteur ce matin sur la 7e édition des trophées H-Up. Ça sera le 3 décembre prochain. Petit souvenir des années 80, ce matin, sur RCF et Radio Notre-Dame, Cyndi Lauper, Time After Time. Allez, il est l'heure d'accueillir Simon Tatrou, voici l'agenda du week-end.
Votre agenda week-end à présent, coup de projecteur sur les trophées H-Up. Pour en parler avec nous, Damien Caillot, président de H-Up Entrepreneur. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Simon.
Le 3 décembre, tout bientôt, donc la 7e cérémonie des trophées H-Up Entrepreneur. C'est un grand moment qui approche.
Exactement, exactement. C'est dans quelques jours désormais. Voilà, c'est le 3 décembre, en fin de journée, au palais de la Porte Dorée.
Et bien, vous nous présentez un petit peu les trophées H-Up, Damien Caillot.
Alors, les trophées H-Up, c'est la mise en avant, je dirais la mise en lumière des entrepreneurs et entrepreneurs, eux, en situation d'handicap, sur un moment qui se veut festif et convivial, dans lequel on va décerner 4 prix, en fait. Un prix créateur, un prix entrepreneur confirmé, un prix qu'on a intitulé Rebondir, Rebondir, et puis un autre prix qu'on a appelé Entrepreneur à l'international. Pour chacun de ces prix, on a eu plusieurs candidatures, bien évidemment, et nous avons dans chacun de ces prix 3 nominés. Ce qui fait 12 nominés au total, pour lesquels, pour chacun de ces prix, il y aura un lauréat ou une lauréate.
Ouais, c'est une belle initiative qui vise à la fois à sensibiliser, puis bien sûr à innover finalement.
Exactement. En fait, ce que l'on veut, c'est que quand on est en situation d'handicap, c'est un fait, mais on veut surtout mettre en avant la partie entrepreneuriale, en fait, de ces personnes, à travers des succès, des réussites, et aussi avec la volonté de créer aussi un écosystème autour de ça. Donc c'est déjà la première brique d'H-Up Entrepreneur, dans l'association, dans notre quotidien, mais à travers aussi ces trophées, c'est-à-dire de mettre sur un instant, sous un même toit, dans un même lieu, d'avoir une unité de lieu dans lequel les médias peuvent être là, les partenaires peuvent être là, bien évidemment, les nominés dont je viens de parler dans les différents prix.
Et le public, les nominés, le public, et le public également, le public peut voter.
Alors,
je crois.
Le public va pouvoir l'être, même si on a une jauge contrainte, et nous en sommes désolés, bien évidemment.
Mais il peut voter, le public.
Mais le public non seulement peut voter, mais je les invite fortement à voter, bien évidemment, de telle manière à ce qu'ils puissent participer eux aussi, qu'ils apportent leur pierre à l'édifice à ce vote, puisque bien évidemment, il y a un vote du public. Il suffit de se connecter à la fois soit sur le site d'H-Up, soit sur les réseaux sociaux, que ce soit bien évidemment LinkedIn, mais pas que, aussi Instagram ou autre, d'aller sur le site d'H-Up Entrepreneur et de pouvoir voter. Comme ça, vous votez pour le candidat ou la candidate de votre choix. Dans les 4 prix, donc au moins dans les 4 catégories dont je viens de parler.
Eh bien, merci Damien Caillot. On invite donc le public à aller voter. Je rappelle que vous êtes président d'H-Up Entrepreneur. Et donc, les trophées H-Up, c'est le 3 décembre. Merci d'avoir été avec nous.
Merci Simon, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée, un agréable week-end.
L'agenda du week-end avec Simon Tatro. Nous sommes le 1er décembre, nous fêtons Saint-Éloi, Sainte-Florence et Saint-Charles de Foucault. Alors, qui était-il ? Élément de réponse dans moins de 10 minutes sur RCF et Radio Notre-Dame avec Isabelle Delaunay dans le Saint du Jour. Puis à signaler également qu'aujourd'hui, c'est le premier dimanche du temps de l'Avent.
Lorsque quelqu'un va en prison, c'est très souvent toute la famille qui y va.
Bonjour, c'est Didier. Je voudrais laisser un message, car c'est l'anniversaire de Samantha, de ma petite femme qui est à la maison d'arrêt de Rouen.
Voilà, mon frère, j'espère que tu vas bien. Je pense très fort à toi. Je te fais plein de gros bisous, je t'aime.
Pour déposer vos messages, composez le 04 28 29 04 17.
RCF vous propose de célébrer le culte protestant. Depuis ses studios, votre radio invite tous les chrétiens à prier dans un esprit de partage. La célébration du culte protestant, c'est ce dimanche à 13h sur RCF et sur l'application RCF.
Vous écoutez RCF, il est 7h50, c'est l'heure de la prière du matin. Dans quelques instants, Mgr Emmanuel Gobillard, l'évêque de Digne, nous proposera sa méditation de l'Évangile. Pour ce premier dimanche du temps de l'Avent, l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 21, votre rédemption approche.
«
ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme.
L'Évangile, le Seigneur Jésus nous invite à ne pas nous tromper de bonheur. Dans une société où le bien-être a pris la première place au détriment parfois du vrai bonheur, nous sommes tentés par ce que la Bible appelle l'idolâtrie. Confondre le vrai bonheur et les plaisirs, certes importants et légitimes, mais qui ne comblent pas la soif de nos cœurs, les désirs d'infini qui habitent chaque être humain. Mon bonheur, ce n'est pas de jouir de la vie, c'est d'être aimé infiniment, par un Dieu qui a donné sa vie pour moi et qui m'invite à donner la mienne pour mes frères. Au milieu du malheur, les prophètes de l'Ancien Testament, comme le Seigneur Jésus, et tous les saints de l'histoire de l'Église, nous rappellent que le Seigneur est là, toujours présent à nos côtés, parfois silencieux mais infiniment aimant. Oui, l'espérance n'est pas morte, elle se trouve dans le cœur de ces hommes et ces femmes qui savent relever la tête, qui ne se replient pas sur eux-mêmes, qui rayonnent d'un bonheur qui les dépasse. C'est ce à quoi nous invite ce temps de l'Avent. Sachons répondre simplement et avec courage à l'appel de Jésus qui nous invite à la seule réaction qui soit digne du chrétien, la sainteté.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Royaume proche, interprété par la chorale Les Tarés pour refermer la prière du matin. Monseigneur Emmanuel Gobillard, l'évêque de Digne, avait préparé la méditation de l'Évangile. Pour ce premier dimanche du temps de l'Avent, l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 21. « 7h56 sur RCF et Radio Notre-Dame. Voici le Saint du jour. Nous retrouvons Isabelle Delaunay. Bonjour Isabelle. »
« Bonjour. En ce 1er décembre, nous fêtons les Florence et les Éloi, deux prénoms d'origine latine. L'un vient de Florence, qui signifie « en fleur », et l'autre, Éloi, veut dire « l'élu ». Sainte Florence est une fille spirituelle de Saint-Hilaire de Poitiers, qui choisit de vivre en recluse, c'est-à-dire dans une cellule souvent murée. S'appliquant à la prière et au jeûne, elle y vécut 7 ans jusqu'à sa mort. Quant à Saint Éloi, bien connu par la chanson populaire, on sait qu'il fut conseiller au 7e siècle du roi Dagobert. Toute sa vie, il a manié beaucoup d'argent, mais il a toujours été très honnête et ne s'est pas enrichi personnellement. Son seul but a été d'affranchir des esclaves, de racheter des prisonniers, de construire des hôpitaux et de fonder des monastères. Mais nous fêtons aussi aujourd'hui Saint Charles de Foucault, canonisé par le pape François le 15 mai 2022. Il est difficile de résumer en quelques mots la vie de cet officier de cavalerie de l'armée française, à la jeunesse dissolue et scandaleuse, qui décide de démissionner à 23 ans pour aller explorer le Maroc, ce qui lui vaudra d'être reconnu et médaillé par la Société de géographie. De retour en France et après diverses rencontres, dont celle de l'abbé Huvelin, il retrouve la foi chrétienne et devient moine chez les trappistes. Mais Charles souhaite vivre encore plus fort son idéal de pauvreté, d'abnégation et de pénitence. Il quitte la trappe pour devenir ermite en 1897 et vit alors en Palestine. Ordonné prêtre à Viviers en 1901, il s'installe dans le Sahara algérien, à Beni Abbès. Il étudie pendant plus de 12 ans la culture des Touaregs. Il évangélisait beaucoup par son exemple, plus que par ses sermons. Le 1er décembre 1916, Charles de Foucault est assassiné à la porte de son ermitage. Finissons avec un extrait de sa prière bouleversante. « Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. »
Et oui, merci Isabelle Delaunay, à demain matin. Je vous rappelle également qu'aujourd'hui, c'est le premier dimanche du temps de l'Avent. Dans un instant, à l'école de la prière, nous retrouvons Xavier Accart et son invité.
Les événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du Présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent chaque semaine un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Une enquête qui met en lumière le lien entre des faits passés et leur incidence dans notre quotidien. Les racines du présent, c'est ce dimanche à 14h30.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous. Eh bien non, la Mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à des prix compétitifs. Et parce qu'elle s'engage aux côtés de l'Église, elle reverse 10 euros pour tout contrat souscrit en 2024. Cet argent sert à l'entretien des paroisses et aux missions pastorales. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, tout en restant dans mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, régie par le Code des Assurances, partenaire de l'Église catholique. Conditions sur notre site.
C'est le temps de l'Avent sur RCF.
Pour préparer Noël sous le signe de la fraternité, RCF vous propose son calendrier de l'Avent sonore, Aventure de Noël. Tout au long de la journée sur l'antenne de RCF, découvrez ces témoignages d'expérience personnelle de fraternité ou écoutez-les quand vous le souhaitez sur rcf.fr, l'application RCF et les principales plateformes de podcasts.